Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là en ce début de semaine. Peut-être vous êtes seul dans votre voiture, hein? C'est un... J'ai quasiment envie de dire, c'est une petite supposition, mais je pense que ça doit sans doute être le cas de bien des gens qui nous écoutent en ce moment. Seul dans sa voiture pour aller travailler, ben c'est le lot de bien des Québécois. Et vous savez que ça fait longtemps qu'on se dit, on en parle un peu chaque fois qu'on parle de transport en commun, de transport collectif, bien sûr, chaque fois qu'on parle de voiture aussi. À chaque fois, on mentionne souvent covoiturage. Puis ça fait longtemps qu'on voulait en parler plus longuement. À chaque fois, on n'a pas tout à fait le temps d'aborder vraiment les choses. Alors, je vais vous poser la question d'entrée de jeu en première heure d'émission aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà pensé au covoiturage, véritablement, là, dans les faits? C'est-à-dire, puis c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui est sortie la semaine dernière sur l'état de l'énergie au Québec. Et on apprenait, entre autres, qu'il y avait 8 travailleurs sur 10 qui se déplacent dans une voiture, dans leur voiture, dans un véhicule privé. Véhicule privé, on veut dire par là, c'est pas une limousine de ministre, là. C'est vraiment votre voiture, votre véhicule, plutôt qu'un transport collectif. Et ça, c'est pour se rendre au travail. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 80% des travailleurs vont travailler avec leur voiture, puis probablement tout seul dans leur voiture. Puis en même temps, ben c'est pas étonnant, parce qu'on sait que la durée moyenne du déplacement pour se rendre au travail en transport en commun, c'est à peu près le double. Ça, c'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des fois, c'est même plus que le double du temps que vous passez avec votre voiture. Quand vous vous conduisez vous-même, on parle de 43 minutes en transport en commun versus 24 minutes quand vous prenez votre véhicule. Fait que là, on regarde ça puis on se dit, bon, en même temps, le débat continuel qu'on fait à savoir est-ce que les gens sont en faveur de prendre un peu moins leur véhicule. Oui, dans les faits, on voudrait bien, mais dans la réalité, c'est difficile. La preuve, mes invités sont là pour en discuter. Et je vais tout de suite faire appel à vous parce que je veux que vous me le disiez ce matin, là. Est-ce que pour vous, le covoiturage, c'est une option réaliste? Vous nous appellerez dans la grande région de Montréal en faisant le 514-790-9850. Les gens qui nous écoutent et qui sont à l'extérieur, on sait que pour les gens un peu plus en région, c'est encore moins évident. Vous pouvez nous appeler également, participer à notre discussion en faisant le 1-866-790-9850. Il est cofondateur de covoiturage.ca. Pierre-Olivier Girard est avec nous. Merci, Pierre-Olivier, d'être là.
Bonjour.
Maxime Villemur est président directeur général de Shareby.ca. Bonjour, Maxime. Merci d'être là. Marc-Antoine Ducas est président fondateur de Netlift. Merci, Marc-Antoine. Petit tour de table comme ça. Pierre-Olivier, vous avez cofondé covoiturage.ca, c'est parce que vous y croyez, j'imagine. Ça fait déjà quelques années.
En 2005, oui, 2005. Ça part de longtemps. Oui,
parlez-nous un petit peu de ça.
Ben, en fait, moi-même, je travaillais, je me rendais à Montréal tous les jours et puis je revenais pas de voir tous les gens qui étaient seuls à bord de leur voiture. Et un jour, je me suis retourné et j'ai vu un collègue à moi qui était seul aussi à bord de sa voiture. Donc, c'est parti de là, en fait. Et l'idée de demander aux gens pourquoi vous faites pas covoiturage, les gens disaient souvent, mais je connais personne qui demeure près de chez moi, qui travaille aussi dans la même entreprise ou à proximité. Donc, l'objectif était de développer une plateforme qui mettra en relation le voisin avec ton collègue. C'était un peu de là où c'est parti. En 2005, il y a quand même plusieurs années de ça, 14
mais ouais,
ans déjà.
Vous étiez un visionnaire, ça fait... Et comment ça marche aujourd'hui?
Ça marche assez bien. On parle de plus en plus du covoiturage comme solution. Là. Dans la bouche de plusieurs personnes, ça devient quelque chose de plus concret. Toutefois, on pense que beaucoup de mesures qui pourraient être mises en place par les gouvernements pour rendre un contexte plus favorable. Des choses de base, là, par exemple, des voies réservées. C'est pas normal qu'en 2018, on n'ait pas un réseau de voies réservées au covoiturage de transport en commun autour de la Grande Région de Montréal. Il y a beaucoup de rattrapage à faire par rapport à l'Ontario, par rapport à ça, ou même tous les autres États américains qui ont des réseaux de voies réservées. Et ça a une utilité pour l'usager, mais également aussi, ça aide à faire une promotion de mode de transport alternatif à l'auto en solo qu'on met en place, ou des stationnements covoiturage également, qui sont très présents en Ontario, mais qui n'en a aucun ici, mis en place par les instances gouvernementales. Donc, plusieurs choses qui aideraient aussi à favoriser le covoiturage et à ancrer ça dans les mœurs des gens.
Oui, effectivement. Puis vous avez raison de dire, on en parle beaucoup du covoiturage. C'est un peu comme l'environnement, hein? On en parle beaucoup. Est-ce qu'on est véritablement écolo? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on veut vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire? Est-ce qu'on le met en pratique? Ça, c'est une autre chose. Marc-Antoine Ducas est aussi un start-upien.
Oui.
Vous êtes tous les trois, en fait, vous êtes dans les entreprises qui ont décidé de miser là-dessus. Toi, Marc-Antoine, c'est Netlift. On s'en était déjà un peu parlé. Rappelle un peu les grandes lignes de cette entreprise-là.
Oui, c'est une boîte que... C'est ma quatrième start-up, en fait. J'ai fondé ça avec un collègue en 2012. On a passé les deux premières années et demie à peu près là, à faire surtout de la recherche-développement parce qu'on comprenait pas pourquoi le covoiturage d'abord est une excellente idée, mais pourquoi ça prenait pas autant d'ampleur que ça devrait l'être. Fait que c'est sûr que moi, j'ai mis pas mal de mon argent. On a beaucoup investi aussi en recherche pour comprendre toutes les préoccupations des usagers. Pierre-Olivier a évidemment raison. Au Québec puis ailleurs dans le monde, il y a toujours eu des plateformes ou des systèmes pour aider des gens à se jumeler. Mais pour moi, en tout cas, j'ai trois enfants, puis il n'était pas question que je reste les bras croisés devant les défis environnementaux. Fait que j'ai dit, faut qu'on transforme le covoiturage en un réel réseau de transport collectif, là, mais de beaucoup plus grande envergure, avec un impact mesurable sur l'environnement. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Comment ça marche?
Application mobile qui combine covoiturage et taxi. On parle plus de micro-navettes que de covoiturage maintenant, parce que les usagers ont besoin de prévisibilité, de sécurité. Pour beaucoup de gens, le covoiturage a une connotation un petit peu péjorative. C'est pas fiable, on n'est pas trop sûr. Qu'est-ce qui arrive si je suis pogné au travail? Tous les exemples, exactement, je ne prendrai pas le transport en commun parce que des fois, le métro est en panne. Mm-hmm. Ça arrive juste une demi-fois par année, mais c'est pas grave. T'sais. Alors, il fallait qu'on adresse ces questions.
Est-ce que c'est juste de dire que c'est comme un peu un Uber, mais planifié? C'est-à-dire
c'est planifié, c'est moins cher et c'est. Ouais. Actuellement, on est à 98,5% de ponctualité. Donc, tu nous dis d'avance où tu veux te déplacer. Il faut que je sois au travail à 9h. Tu vas être au travers à 9h.
Fait que tous les matins, quelqu'un qui se rend d'un point A à un point B peut dire, je vais prendre mon Netlift.
Oui, parce que si tu n'as pas de covoiturage, on va quand même t'envoyer un véhicule, qui est un taxi. On a presque 1800 taxis maintenant qui sont sur notre plateforme.
Mais ça coûte combien par rapport à...
Entre 4 et 7 $ par trajet. Ça dépend de la distance, puis où est-ce qu'on s'en va. Dans le centre-ville de Montréal...
4 et 7 $, ça serait pour un trajet de combien de kilomètres, ça?
Peut-être 6-8, quelque chose comme ça. Donc, un Rosemont-Centreville, par exemple, c'est 6$. Parce qu'effectivement, on va trouver beaucoup de gens. Là, le problème qu'on a, c'est que des fois, il y a 30-40 matchs par trajet. C'est trop. Fait que là, il faut qu'on trouve la façon de créer un ordre. Qui je vous recommande? Peut-être une dame de votre groupe d'âge, de votre catégorie d'intérêt. On devrait plus vous matcher avec cette personne-là que de vous envoyer un étudiant de 17 ans. Là,
Netlift faisait partie des solutions de transport, entre autres, du PQ pendant la campagne électorale.
C'est Tinder du covoiturage.
C'est ça. On s'en souvient. Comment ça s'appelait le grand...
Le grand déblocage.
C'est ça.
Ces Breton est venu passer quelques heures avec nous pour ça. Fait que, disons qu'on... On est honoré d'avoir été sa source d'inspiration.
Oui, aujourd'hui c'est comme le grand braillage.
C'est-à-dire qu'on est quand même, faut être honnête, on est quand même aussi dans le plan de la CAQ. Là. On a rencontré tous les partis à l'époque qui voulaient comprendre c'était quoi le potentiel de ça. Puis je rejoins parfaitement ce que Pierre-Olivier.
Je parlais du PQ finalement.
C'est ça. Ça pour moi, mes compétences
c'est hors de
politiques
votre contrôle.
Sont tout à fait limitées.
Maxime Villevire, je le gardais pour la fin, parce que je sais toi, Maxime, que t'es président directeur général de Shareby.ca. Toi, t'es pas forcément contre le covoiturage, mais t'es pas convaincu non plus. T'es comme beaucoup d'auditeurs, je pense. C'est-à-dire, prêt à l'essayer, mais en même temps, t'es pas convaincu que ça fasse ton affaire à toi pour ta réalité.
Effectivement. Donc, de prime abord, je pense que je suis probablement pas le segment qui est targeté, entre guillemets, par les applications de covoiturage parce que j'ai une vie assez chaotique. Je suis entrepreneur, j'ai deux enfants en bas âge. Je sais pas quand ma journée commence et je sais certainement pas quand elle va terminer. Donc ça, c'est un point. L'autre point, Shareby, donc c'est une plateforme aussi de où on match, si on veut, des espaces utilisés pour des besoins d'entreposage. Donc je comprends aussi les enjeux technologiques et aussi opérationnels d'amener des biens sous-utilisés, comme dans ce cas-ci, c'est les voitures, pour nous, c'est les garages, avec des besoins pour réduire les prix, augmenter la qualité du service, etc. Donc, je comprends aussi cette facette-là, mais je pense certainement que c'est pas pour moi, puis j'ai bien hâte de voir si je peux me faire dire le contraire.
Ça serait pas pour toi, tu dis j'ai une vie chaotique, mais en même temps, c'est la vie de bien des gens, des enfants, tu dois peut-être courir, je sais pas quel âge ils ont tes enfants?
7 ans et 1 an et demi,
Bon, mais il y a sans doute de la garderie là-dedans.
Effectivement.
Il y a peut-être du hockey ou d'autres sports. Bon, il y a beaucoup, c'est le grand...
le bébé qui est malade, on va aller chercher à la garderie, etc.
C'est les grands voyagements. On se transporte souvent à plusieurs points, là, ce n'est pas qu'un seul arrêt par jour. En tout cas, pour bien des familles, c'est plus que ça. Comment tu verrais, toi, ta possibilité? Mettons, y as-tu déjà réfléchi, Maxime, de dire, OK, mettons qu'on veut faire notre effort puis qu'on veut un peu covoiturer. Comment tu pourrais t'y prendre?
Bien, c'est sûr que mon premier réflexe, par exemple, si j'ai pas l'automobile, donc dans notre famille, on a seulement une voiture, je vais aller chez Uber. Tout simplement parce que c'est vraiment on demand. J'en ai besoin maintenant et ça vient en moins de 5 minutes. Donc ça, c'est sûrement une habitude que j'ai prise. Puis c'est toujours là quand j'en ai besoin. Donc, c'est sûr que ça vient combler mon besoin. Donc, j'ai pas nécessairement pensé à une autre solution parce que cette solution-là répond à mon besoin parfaitement.
As-tu calculé combien tu donnes à Uber par mois?
Non. Mais c'est certain que je le prends seulement quand c'est nécessaire. Puis, je le mixe souvent avec le transport en commun.
Mais d'après donc, toi?
Je sais pas, mais je le prends peut-être une fois, deux fois par semaine. Donc, sinon, c'est vraiment plus ce qui varie, c'est l'heure à laquelle je vais au bureau.
Ouais.
Ça varie, puis l'heure à laquelle je rentre. Donc, c'est plus ça qui est difficile pour moi de planifier.
C'est combien de kilomètres entre le bureau puis la maison?
Quelques kilomètres, là, peut-être 4-5.
C'est pas trop mal, finalement.
Non, c'est ça, exactement.
Tu pourrais même le faire en vélo, à la rigueur, l'été.
Oui, j'en aurais besoin.
C'est pas ça que je voulais dire du tout. Je voulais juste dire que tu pourrais, à la rigueur, faire du vélo.
Mais encore
parce
une
que...
fois, c'est un peu plus difficile parce que parfois, c'est moi qui vais porter les enfants.
Ouais.
Donc, des fois, c'est vraiment on the go, là, pas mal la majorité du temps.
Parce que je rappelle toutes ces possibilités de transport. Évidemment, là, on parle de l'auto-solo, l'auto-partage, mais il y a aussi, bien sûr, le transport en commun qui est utilisé par à peine 15% des gens. Ouais. C'est fou, là, mais cette étude-là sur l'état de l'énergie au Québec et d'autres études du genre qui recoupent un peu ce genre de données-là nous montrent que finalement, là, les gens sont vraiment, vraiment, vraiment attachés à leur voiture. Puis, je veux dire, c'est pas une nouvelle. Moi, j'en parle au moins une fois par semaine. Puis,
je vais corriger ce que vous venez de dire. Ben, ils sont pas attachés à leur voiture. Ils sont attachés à leur liberté. Ils sont attachés.
Oui, c'est
parce que, regardez.
Mais c'est ta voiture qui te donne ça.
Oui, mais les gens, il y a des gens qui habitent dans le centre de Montréal qui n'ont plus de voiture et qui ont autant, sinon plus, de liberté parce qu'ils ont plusieurs choix. Mm-hmm. Ils sont fiables, ils sont propres, ils sont prévisibles. Maxime l'a dit tantôt, ils utilisent Uber une ou deux fois par semaine, ce qui n'est pas tant que ça. Mais ces deux fois-là sont suffisantes pour le conforter dans certains choix de mobilité, right?
Mm-hmm.
Puis moi, j'en ai trois enfants, mais je sais très bien, on a été, nous, en transport collectif et en autopartage avec Communauto jusqu'à la naissance de mon deuxième.
Mm-hmm.
Puis la fois
T'avais pas de voiture?
On n'avait pas de voiture, on habitait en ville.
Ouais.
Puis avec mon époux, c'est des choix qu'on faisait. Mais là, je me rappelle très bien de la fois où, dans un bon coup de tempête de neige, un banc de neige, l'autobus, deux poussettes, un autobus bondé, ma femme m'a regardé et a dit...
OK, ça fera.
Ouais. Là, OK. Et nous, on ne peut pas s'opposer à ça. On, évidemment, quand là, il faut être à garderie avant 6 heures, sinon c'est une pièce la minute. Savez-vous ça, que le monde commence à être un peu nerveux avec les horaires de bus? On peut tout à fait comprendre ça. Alors, on n'a pas ici la prétention de parler de covoiturage comme étant la seule, unique et meilleure solution de tous. Mais ce qu'on dit, par exemple, c'est que si vous habitez sur la Couronne-Nord de Montréal, quelles sont vos options à part votre auto, puis peut-être un peu de transport collectif pour vendre dans le centre-ville ou aller travailler à Terrebonne? Il n'y en a pas d'autres. Ce qu'on dit, c'est que là, l'État, effectivement, doit utiliser les routes puis les stationnements en place, donner un petit coup d'accélérateur pour que tous les usagers qui ont envie de partager leur voiture peuvent aider ceux qui n'en ont pas ou qui ne veulent pas s'en servir. On est rendu bon là-dedans. Le covoiturage fait ça depuis plus que 10 ans. Okay?
Ouais.
Donc, c'est prouvé depuis longtemps que ça fonctionne. Mais il faut qu'on soit capable d'enlever le risque, le Moses de dernier risque. Qu'est-ce qui arrive si je suis pris au travail et que je n'ai pas de backup?
Ouais, Pierre-Olivier Girard, justement, de covoiturage.ca. Quelles sont les grandes conclusions, là, ce que vous avez appris de votre expérience? Parce que vous êtes sans doute le précurseur ici au Québec. Je pense que
nous, on ne cherche pas non plus à cibler les gens qui travaillent au centre-ville. Je pense, comme on disait, une personne qui vit en banlieue, qui est près d'un réseau de trains de banlieue, qui peut se rabattre vers le train. Alors, au centre-ville, je pense que c'est la solution idéale à privilégier, là. Et les gens qui font quelques kilomètres pour se déplacer entre Huntsic et Rosemont, c'est pas non plus la cible. Je pense que plus qu'on fait une distance, plus c'est facile de pouvoir faire du covoiturage parce que le détour qu'on fera va être un petit pourcentage de la distance totale qu'on parcourt. Donc, il y a moins de sacrifices à faire sur son confort à ce niveau-là que de faire un détour de quelques kilomètres pour pouvoir embarquer une personne à l'intérieur de l'île de Montréal. Donc, je pense que nous, on cible davantage les entreprises ou même les usagers qui sont hors de l'île de Montréal, en fait, hors des centres desservis par transport commun de façon efficace. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et d'avoir idéalement une personne qui a une destination en commun avec soi, qui est le travail. C'est souvent ce qui fonctionne davantage que d'avoir à faire un détour le matin pour l'embarquer, détour au débarquement avant le lieu de travail également.
Mais ça, est-ce que vous l'avez essayé puis ça ne marche pas? Les gens ne vont pas faire l'effort d'aller justement faire un détour pour aller chercher?
150 mètres.
Ils font 150 mètres, mais pas plus?
Au-dessus de 150 mètres, les taux de jumelage chutent dramatiquement. Deux points de rue.
Parce que c'est comme Morbeil.
À l'heure de pointe, voyons donc.
Ah oui, c'est ça.
6 minutes.
150 mètres.
Ouais, la tolérance au détour puis au délai en heure de pointe, là, elle est extrêmement faible. C'est vrai, plus le trajet est long, parce que je fais Montréal-Québec, nous, on ne s'occupe pas d'interurbain, mais quand on a des trajets très longs, 15 minutes de jeu, c'est pas grave. Mais 15 minutes de jeu, si j'ai un enfant en garderie, je viens d'être en retard solidement.
Alors, je comprends.
C'est extrêmement délicat, complexe d'organiser des jumelages avec des gens de votre style, qui sont pas nécessairement un collègue, mais qui travaillent à peu près avec vous dans le Myland, tout ça. Attendez, là, c'est...
Mais peut-être que la voie réservée pourrait en faire sauver un 30 ben minutes oui. sur le temps de transit
ça,
qui viendrait compenser
sur
le détour.
Ça, c'est un fait, ça. Je pense
ça pourrait
que
être
si
le stationnement de point de rencontre, en fait, où je laisse un véhicule, je m'y stationne, j'embarque avec mon équipage et on a un endroit sécuritaire où laisser le véhicule. C'est toutes des choses qui viendraient faciliter un peu les choses et qui aideraient à faire une promotion constamment auprès de la population, ça.
Puis aussi, le, moi, j'aime l'idée de dire, si tu peux rouler, mettons, bon, je vais peut-être dire une grosse affaire qui ne va pas rendre content les gens qui gèrent les voies d'autobus réservées, mais si on pouvait, tu sais, des autobus, là, il n'y en a pas tant que ça. Hein. On sait qu'il n'y en a pas assez. Fait que souvent, tu vois la voie réservée aux autobus est quasiment vide. Exactement. Un autobus, ça, c'est frustrant quand tu vois que la voie d'à côté, les gens sont pare-choc à pare-choc. Et c'est pour ça que moi, je pars de Verdun au centre-ville de Montréal tous les matins, puis je vois il y a toujours des opérations policières, parce que je veux dire, les policiers s'en donnent à cœur joie d'attraper les gens qui finissent par se tanner, puis dire hey, regarde, ben, là, le petit bout de 100 mètres là, où je vais passer à côté, puis ils se font attraper tous les matins. Ils en pognent au moins une quinzaine. Là,
tu fais... Mais voici un super bon exemple. C'est que les gens, actuellement, sont prêts à prendre des risques comme ceux-là pour de la
vitesse. Voilà.
Quel compromis vous seriez prêt, puis vos auditeurs seraient
prêts
à faire?
Mais s'il y avait une voie réservée, ou ben, prenons celle des autobus, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a plus de place. Fait qu'on prenons celle-là.
Peux-tu partager ça?
Ou si t'es, mettons, deux et plus. Tu peux dire, comme aux États-Unis, sur les autoroutes aux États-Unis, là, c'est qu'on, les carpools...
ça marche très bien. Là. C'est 100 000 par jour à Washington, D.C.
C'est incroyable.
Entre la Virginie et le centre.
Ouais. 100 000 personnes qui se voyagent comme ça?
Par matin, par le carpool. Eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aménager. Vous voulez de la vitesse, ou bien vous payez, ou bien vous partagez.
C'est ça, ouais, ouais.
Si vous voulez ni l'un ni l'autre, donc vous voulez être seul dans votre auto, ben allez dans le trafic.
Ouais.
Ben, sans, c'est pas pire dans le pays de l'oncle Sam.
Et je pense que si on demandait aux gens, aujourd'hui au Québec...
Je coupe
là,
votre temps de commute de moitié, ouais, mais faut
payer,
que vous ne soyez pas seul.
Non, la notion payer, de payer...
Ça, au Québec, c'est plus difficile, je vous le dirais.
Mais au point où on en est, je serais bien surprise de voir. Moi, je pense qu'il y a du monde qui payerait. Ouais. Faudrait qu'on aille à la pause, qu'on me rappelle. On s'égare pas du tout, en fait.
Non,
on est vraiment
dans
notre chemin. Mais on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, on a hâte de vous parler, chers auditeurs. Peut-être seul dans votre voiture. Est-ce que le covoiturage aurait été une option pour vous ce matin, par exemple? Prenez la journée d'aujourd'hui. Est-ce que vous covoiturez, ça serait possible plutôt qu'être en auto solo? L'autopartage peut être une option pour vous? Peut-être. 514-790-9850. Vous faites le 1-866-790-9850 pour nous joindre de l'extérieur de Montréal. Beaucoup de gens qui veulent intervenir sur notre sujet de covoiturage. Je suis contente parce qu'il faut parler des vraies affaires. Ça, c'est la vraie affaire. C'est réel. Est-ce que ça peut fonctionner pour vous? Ça, c'est une autre chose parce qu'il faut regarder notre horaire. Il faut regarder notre vie aussi. Mes invités, je vous les rappelle, Maxime Villemur, qui est directeur général et président de Shareby.ca. Marc-Antoine Ducas de Netlift et Pierre-Olivier Girard de covoiturage.ca. On a avec nous Jean. Bonjour.
Bonjour les amis, ça va bien ce
matin? Ça va très bien. Vous, êtes-vous en auto-solo ou en auto-partage ce matin, Jean?
Je suis à ma retraite, je suis chauffeur, mais je déplore une chose, OK? Moi, je ne sais pas, là, dans la province de Québec, là, on ne peut pas faire comme les autres sur la planète Terre, OK? On parlait du carpool aux États-Unis, ça fonctionne très bien. Mais vous donner un autre exemple. Sur la 15, OK? Moi, ça me choque assez d'une voie réservée pour des passagers en double ou des autobus et des véhicules verts. En 2018, j'ai vu un policier donner une contravention. OK, sur cette voie-là. Mm. Pourquoi qu'on met pas des caméras? C'est simple. On a des bonnes caméras qu'on pourrait donner des contraventions à des gens. Alors, on dirait que c'est compliqué pour nous autres ici. Alors, c'est le sujet que je voulais aborder ce matin.
Mais vous, covoiturage, c'est-tu possible? Même à la retraite?
Moi, oui. Ce matin, justement, au lieu de prendre deux voitures, j'ai dit à ma femme, on va aller faire des commissions ensemble.
C'est bon? Au moins, vous n'en avez roulé juste une? Mais est-ce que ça serait possible d'en avoir qu'une dans les faits?
Non, parce que je demeure à la campagne, malheureusement, ou heureusement, là. Alors, il me faut deux voitures ici.
Ah oui? Vous n'avez pas arrangé vos horaires pour être capable de vous covoiturer dans le couple?
Oh, malheureusement, je ne suis pas tellement flexible.
Ah, OK. Ça, c'est intéressant. Flexibilité. Ça, c'est une donnée qu'on a abordée. D'ailleurs, la flexibilité, c'est pas mal un mot-clé ici. Merci, Jean. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour, Isabelle.
Le covoiturage, ça vous dit quoi, vous?
Moi, Isabelle, le covoiturage, je l'ai fait pendant 9 ans.
Ah, bravo.
Moi, je suis de Saint-Hyacinthe, je demeure à Saint-Hyacinthe, puis je travaille à Boucherville.
OK.
Dans un concessionnaire automobile, puis j'avais un confrère de travail qui travaillait à la même place que moi. Fait qu'on a voyagé pendant 9 ans ensemble, puis là, aujourd'hui, il a été transféré le soir à la même place que je travaille. Fait que j'ai perdu mon gars qui voyageait avec moi, mais à toutes les années, on pouvait se serrer, parce que moi, je prenais mon auto 6 mois, puis lui, il prenait 6 mois. Fait que toutes les années, on se payait au moins un voyage des Caraïbes entre 1500 et 2000 $ qu'on sauvait par année.
Ah, ça, c'est intéressant. C'est que dans le fond, ouais. Vous ne chargiez rien. C'était non. Une moitié de l'année, c'était vous. L'autre moitié, c'était lui.
C'est
puis
ça,
vous faisiez des économies. Donc, 6 mois par année, vous n'aviez pas d'essence. Vous coupiez sur les coûts de... Ben oui, c'est sûr.
C'est ça. Puis le matin, je partais, j'allais le chercher. La semaine suivante, lui, il partait de chez lui. Il venait me chercher. On n'avait jamais de déplacer notre auto. Elle restait dans le garage.
Oui.
Ça veut dire que... Puis c'était fameux. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu mon gars qui voyageait avec moi. Fait que... Comme on dit, mais je suis toute seule, mais je pars, j'achève, mais il ne reste pas grand temps. Mais c'est au moins proche de 2 000 $ par année.
Ah, ouais. C'est... Merci, Robert, de nous remettre ça en tête, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore des économies qu'il y a... ouais, qui sont à faire. On va y revenir, bien sûr. On va parler à Patrick. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour.
Oui, covoiturage. Oh, vous êtes dans votre auto.
Oui, oui, oui.
Êtes-vous tout seul?
Je suis seul. Ben oui, je suis seul. En route vers Chalière.
Bon, ben vous êtes en bonne compagnie, on est avec vous. Est-ce que le covoiturage... Oui, vous êtes pour?
Ouais, moi, je suis pour l'idée, mais j'ai de la difficulté à voir comment ça peut être applicable pour des gens qui n'ont pas un horaire fixe.
OK.
Moi, aujourd'hui, c'est le portrait typique. Donc, je quitte Montréal, je m'en vais à Joliette, je suis seul dans ma voiture. J'ai un meeting, après ça, je retourne à Blainville. Ce soir, je sais pas si je vais à Montréal direct, fait je fais des longs trajets comme ça. J'aimerais ça être capable souvent d'embarquer des gens. Mais comme je ne sais jamais à quelle heure je reviens ou à quelle heure je pars, il me semble que c'est difficile de l'appliquer. Non?
Ah ouais, c'est ça. Vous pourriez même pas facilement être un potentiel chauffeur Netlift, alors?
Non, ouais. En fait, je pourrais... Je sais pas, je connais pas les applications qui existent.
On peut rappeler, entre autres, parce que nos invités sont tous des gens qui sont des propriétaires de start-up, dont deux, entre autres, en matière de covoiturage. Marc-Antoine Duquette, oui. Peut-être, sur Netlift, est-ce que ça pourrait être un potentiel chauffeur pour vous autres?
Tout à fait. Ben, mais en fait, c'est ça.
En même temps, il sait pas, il dit, je sais pas à quelle heure je vais rentrer.
Ben, il n'y a pas besoin. En fait, il y a une partie de ces trajets qui sont prévisibles. Tant mieux, on va les prendre. Il va juste avoir besoin de les publier. La bonne nouvelle, c'est qu'il va probablement sauver la vie de plein de gens qui ont besoin de partir de Montréal puis d'aller à Joliette, qui n'ont pas d'alternative. On s'entend-tu qu'il n'y a pas beaucoup de départs de train qui font ça tous les matins?
C'est que tu te mets disponible, dans le fond,
oui,
c'est ça?
Exact.
À l'heure où tu vas passer là, tu dis, moi, je passe là.
Exact. Ouais.
De ton côté, Pierre-Olivier, comment?
Ben, l'important, c'est de savoir combien de temps d'avance avez-vous votre déplacement. Si vous le savez 24 heures d'avance, c'est l'idéal, c'est de pouvoir l'annoncer, justement, vos sièges disponibles. Et là, une personne pourra, justement, réserver. Souvent, les passagers aussi aiment beaucoup de dernières minutes. Hein. C'est assez étonnant de voir comment des gens vont aller à Toronto, on va réserver ça 1 heure d'avance. Donc, pour un Joliette, ça peut être aussi fait 8 heures avant le départ. Les gens peuvent aller réserver une place avec vous. Ça va vous donner peut-être un 20 $ pour vous aider à payer votre essence. Et puis, ça fait de la compagnie.
C'est ça, parce que les gens, donc, contribuent.
Effectivement, oui.
Ils payent l'équivalent de quoi?
Ben, il y a l'alternance, comme le monsieur tout à l'heure disait, où il échange à conduite une semaine sur deux. D'autres modèles où les gens payent un montant selon la distance qui est parcourue.
Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus populaire? Est-ce que les gens se rendent disponibles à transporter des gens en échange d'argent? C'est ça qui les motive d'abord, vous diriez?
Ça dépend. En milieu de travail, je vous dirais, c'est assez en alternance, une fois sur deux. Tandis que quand une personne n'a pas de voiture, ben là, il n'y a pas d'alternance qui est possible. C'est le passager qui va payer sa course à tous les jours.
Oui, c'est ça. On va revenir sur ce que les entreprises font, parce que covoiturage.ca travaille avec plusieurs entreprises, dont Desjardins. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre quelqu'un dans votre voiture? J'ai Christian qui me dit « Plus jamais le covoiturage, j'ai eu 3 mauvaises expériences. La première, il m'a parlé des problèmes avec sa femme pendant toute la semaine. La deuxième expérience, c'est un fumeur. Sa voiture était sale, ça puait. Puis la dernière expérience, le gars conduisait tellement mal, c'était dangereux, il coupait tout le monde sans respect. » Alors, voilà. Lui, il n'a pas aimé ça du tout, Christian. Visiblement, c'était lui là,
qui était le passager.
C'est vrai que, bon, tu rentres dans la voiture, dans l'univers de quelqu'un aussi, là, au même titre.
C'est pour ça qu'il faut le certifier.
C'est ça. C'est pour ça qu'il faut y penser. Mm-hmm. Mais ça peut être une option. À tout de suite, tout le monde. Marie-Hélène est avec nous. Bonjour, Marie-Hélène.
Bonjour,
ça va très bien, le covoiturage, vous, ça vous dit quoi?
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, puis j'en fais aussi. J'appelais surtout, moi, je suis chauffeur d'autobus pour la STM.
Oui.
Par rapport aux voies réservées. Là,
oui.
On commence à en avoir de plus en plus, là, des voies réservées, covoiturage, voitures électriques, tout ça. Un exemple sur la 20 là, de l'aéroport,
mm-hmm.
à peu près l'échangeur Turco. Ça, je suis d'accord avec ça aussi, sauf que je crois que les gens devraient avoir une formation pour ça, parce que c'est très dangereux. Les gens vont couper sur deux lignes doubles pendant que nous, on arrive avec l'autobus ou les taxis. En fait, je crois que puis c'est surtout n'importe qui l'utilise aussi. Là. Donc, peut-être avoir un sticker dans leur vitre, puis avoir plus de caméras, justement, pour faire en sorte que ça se passe mieux, parce qu'il y a beaucoup d'accidents par rapport à ces voies réservées-là. Là.
Ah oui? OK. Donc,
parce que c'est réservé aux autobus, puis covoiturage 2 ou 3, mais les gens, ils embarquent dessus, puis souvent, ils sont seuls au volant. Là.
Alors qu'ils devraient être plusieurs, qu'ils devraient être au moins 2, là, c'est ça?
Ouais. Ouais, ouais. Vous avez entièrement raison, parce que là-dessus...
Marc-Antoine Duquette. Oui,
c'est ça. On s'est fait beaucoup dire, notamment dans nos rencontres au ministère des Transports, puis des choses comme ça, que la sécurité était une grosse problématique quand on partage des voies. Et là-dessus, où je rejoins votre auditrice, c'est sur la question de la sécurité. C'est pour ça que nous, ce qu'on a recommandé au ministère, c'est 2 choses, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais la première, c'est de pouvoir garantir qu'on peut suivre les automobilistes. Nous, nos covoitureurs sont obligés d'être sur une application mobile et GPS. Donc, de cette façon-là, on est capable de savoir un peu ce qui se passe. Puis le deuxième élément, c'est de certifier les chauffeurs. On vérifie toujours, nous autres, les dossiers de conduite des gens, leur profil. Et de cette façon-là, on peut aussi leur donner un encadrement. Je ne veux peut-être pas dire nécessairement une formation. Ça se fait souvent sous la forme d'entrevues. Mais c'est d'être bien capable d'aviser les automobilistes, que ce soit monsieur, madame.
L'entrevue? Vous avez passé en entrevue tous les gens qui sont sur votre...
Les chauffeurs de taxi, oui. Puis les automobilistes, les covoitureurs qui sont certifiés, ça se fait souvent au téléphone. Ouais. Parce que ce qu'on veut vérifier, effectivement, c'est qu'ils soient bien conscients que si on est pour gagner du temps d'embarquer des gens, il faut quand même bien que ces gens-là puissent... être conscient des règles du jeu, de ce qu'on attend d'eux autres, parce que c'est avantageux pour personne de le faire. Donc, moi, je milite beaucoup pour qu'il y ait une garantie puis une certification là-dessus. Là.
Merci, Marie-Hélène. Maxime Villemur,
oui, moi, j'ai une question par rapport, en fait, pour toi, Marc-Antoine, par rapport à la sécurité, puis qui vient aussi un peu toucher le modèle d'affaires. Qu'est-ce qui arrive dans le cas où, par exemple, 2 personnes qui se rencontrent pour la première fois sur Netlift, ensuite de ça, il y a une récurrence, ils se voient tous les jours, puis ils décident de faire affaire avec celle-là de la plateforme parce que c'est plus facile, ils font toujours la même route, puis peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillent au même endroit.
Ouais.
Qu'est-ce qui arrive au niveau de la sécurité dans ce cas-ci, parce que là, les 2 personnes vont aller à l'extérieur de la plateforme? Est-ce que ça arrive souvent, puis comment vous faites pour contrer ça?
Une bonne question, en fait. Ouais.
Ça fait, c'est ça nous a frappé il y a 3 ans déjà dès le modèle.
Les gens pouvaient tenter de s'arranger tout seul.
Oui, oui, bien évidemment, c'est la
c'est première
objection.
C'est comme Airbnb, c'est comme n'importe quel... Ils ne donnent pas le numéro de téléphone de ton client tant
exact.
Que tu n'as
pas. En fait, comment les gens ont fait pour les retenir? Bon, le passager, il reste dans la plateforme parce qu'il y a une garantie de retour à la maison. Autrement dit, il sait que s'il arrive quoi que ce soit avec son conducteur ou qu'il doit rester plus tard, il ne sait pas à quelle heure il part, nous autres, on va le ramener à la maison avec des taxis. On en a 1800 partenaires, pas juste dans le Grand Montréal, là, en Outaouais, dans le bout de la Gaspésie. L'idée là-dedans, c'est que la garantie de retour à la maison, on en avait parlé au début, c'est la principale raison pour laquelle les gens hésitent à laisser leur auto. Ils veulent être sûrs d'avoir un service. Okay? Donc, Maxime disait tantôt qu'une ou deux fois par semaine, il faut qu'ils prennent un Uber. Bien, c'est que c'est une ou deux fois par semaine-là, on peut avoir besoin d'un backup. Mm-hmm. Et ça, nous, c'est pour ça que depuis l'an dernier, on est sur le bureau du Taxi de Montréal, là, on est une plateforme de répartition mixte. Covoiturage et taxi, okay?
Mm-hmm.
Pour être sûr que les gens ont du service. Le deuxième élément, c'est pour le conducteur. Pourquoi le conducteur accepterait de rester ou de continuer d'embarquer quelqu'un alors qu'il pourrait dire « donne-moi 20$ puis c'est correct ». Mais c'est que nous, on coordonne, soit avec son employeur ou en privé, le stationnement. Le corollaire de ça, puis je rejoins ce que Pierre-Olivier disait tantôt, quand le stationnement est gratuit puis abondant, le covoiturage n'a aucun sens de réussite. Aucun autre mode que l'automobile peut battre ça. Mais quand le stationnement est compliqué, quand il est cher, là, les automobilistes commence à avoir une vraie raison. Pourquoi j'embarquerais quelqu'un? Alors nous, on coordonne, on réserve des stationnements aux gens qui vont monter des passagers avec eux. Alors là, si tu veux t'arranger
avec
ton passager,
tu payes le stationnement du monde.
On le fournit pour le monde. Fait que si les gens veulent quitter, qu'ils le fassent, moi, ils perdent son parking.
Faites-vous de l'argent chez Netlift?
le modèle est très intéressant.
Ouais. Ça, c'est une façon de me dire, pas encore, mais ça s'en vient.
C'est une façon de te dire, on discute avec des gens, pas juste au Québec. Fait que c'est pour ça que...
Je pour le vendre?
Là-dessus. Non, pour l'expansion.
Ah ouais? Mais donc, c'est...
On s'en reparlera là-dessus.
C'est un modèle qui fonctionne, qui est viable.
Le modèle au kilométrage
tu payes le parking du monde. Juste, moi, ça me coûte 21 $ tous les matins.
Si tu prends une passe mensuelle, ça te coûte combien?
Ben, c'est 300 piastres.
Ça fait combien de rides par mois, ça? 40?
À peu près, là. Mm-hmm. Oui, sans doute.
OK. Je m'arrête là pour l'instant.
Ben, ça fait 20 jours, deux fois par jour.
Uh-huh. Ça coûte combien de la ride, un parking? C'est ça. Ben, je m'arrête ici.
Non, je pense à toi qui le paye. À chaque personne qui viendrait au centre-ville, ça fait beaucoup.
Mais
ça fait cher.
Mais des passes mensuelles, non. À l'unité, oui, c'est hors de prix. On ne fait pas ça. C'est des mensualités de stationnement qui ont du sens.
Tu as 100 piastres de différence. Oui. Fait que ça, c'est ta marge, mettons.
C'est parce que les gens sont pas... Ouais. Les commuters, ceux qui font du domicile-travail, par exemple, partir de deux montagnes, s'en venir au centre-ville, c'est plus de 40 km.
Moralité, il faut que tu donnes beaucoup pour attirer du monde à faire du covoiturage, c'est ça que je comprends. Ben, faut payer le parking,
C'est quoi l'alternative? Quand on part de la Couronne-Nord, de Sainte-Julie, puis qu'on s'en vient dans le centre-ville, c'est quoi nos coûts? Il faut payer de l'essence,
c'est 500 piastres par mois. Sans compter le temps, je vous rappelle, ça prend deux fois plus de temps. Là. Le temps, c'est de l'argent aussi.
Bon, alors, il faut qu'ils puissent le faire en auto, mais moins cher.
Pierre-Olivier Girard, vous, comment ça marche au niveau là, des... justement, avez-vous le même genre de proposition? Vous payez le parking, vous offrez des stationnements incitatifs?
En fait, nous, on travaille avec les employeurs qui veulent justement optimiser leur stationnement. Comme Marc-Antoine disait, c'est sûr que si le stationnement est abondant, qu'il y a un surplus et que les gens vont tourner en rond pour pouvoir se stationner, il n'y aura pas beaucoup de succès du covoiturage. Mais dès l'instant où il y a un manque d'espace de stationnement, un problème de mobilité dans une entreprise qui est hors de Montréal, par exemple, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et les gens qui font du covoiturage, qui démontrent qu'ils en font, ont accès à un espace réservé privilégié à côté du président et des vice-présidents.
Ouais. Maxime, ça t'a convaincu, toi?
Pour répondre
à ta question.
Le fond, j'ai une question par rapport. Si le stationnement est limité, puis le stationnement est un de vos principaux bonbons pour ceux qui font qui sont covoitureurs, comment vous allez faire pour atteindre une masse critique qui va permettre d'offrir un service à tout le monde? Mm-hmm.
En fait, dans une entreprise, de plus en plus, je pense que les gestionnaires immobiliers réalisent que quand on construit un nouvel édifice, il y a beaucoup plus d'argent à faire avec de l'immobilier versus du stationnement. Donc, la tendance est là à regarder comment on peut résoudre le nombre de cases par nombre d'employés dans un édifice. Donc, c'est là où, justement, il y a beaucoup à faire. Là. Puis, de plus en plus, on essaie de démontrer aux employeurs de peut-être subventionner d'une certaine façon les autres modes de transport alternatifs à l'auto en solo. C'est-à-dire que si je renonce à mon stationnement en tant qu'employé, peut-être j'aurais droit à un montant de 500 $ pour m'acheter une passe de transport en commun si j'ai accès aux autres transports en commun. Si je veux renoncer à mon stationnement, bien, peut-être je pourrais avoir 500 $ pour m'aider à payer mon covoiturage en tant que passager.
OK, vu
Parce
comme
qu'il
ça.
Y a un coût pour l'employeur à 1000 $ en moyenne là, par espace, par année, par employé, c'est assez élevé. Là.
Non, c'est certain. Puis moi, ce que je vois aussi, c'est que je pense que le covoiturage en tant qu'idée, c'est super bon. Mais ce que je comprends, c'est que c'est extrêmement complexe. Puis il y a beaucoup de parties prenantes pour que ça fonctionne. Puis c'est peut-être pour ça que ça n'a pas encore été à une masse critique.
Surtout pour nous au Québec, où il y a énormément de kilomètres de route à couvrir.
Ben, puis c'est parce que la densité n'est pas là. Je veux dire,
on
n'a
pas beaucoup de monde pour beaucoup.
La population totale du Québec, c'est un quartier de la ville de Shanghai. Là, fait que, à un moment donné, puis on est trop étendu.
Vu de même.
Non, mais c'est vrai. C'est parce que la densité n'est pas là. Il y a d'autres choses dans le monde là, qui se passent. Puis on est dans une logique ici où le transport collectif fonctionne vraiment très bien. Ouais. Alors,
Tu veux dire que... Qu'est-ce que dire par le transport collectif?
Je veux dire, la STM a un service impeccable. C'est bien financé.
Tu restes où, Marc-Antoine?
C'est parce que je compare avec ce qui se passe ailleurs. Il faut sortir
à Shanghai?
le train de New York est assez violent. Là. Le service est bon ici. Il est vraiment bon.
Croire que quand on se compare, on se console.
Au niveau du transport collectif, quand on se compare, on se console. Okay, La preuve, c'est qu'il est très utilisé.
Je vais entendre plein de gens dans leur voiture qui sont en train de dire « Ah, voyons, Seigneur, où est-ce qu'il sort, lui? »
Non, mais c'est malheureusement vrai. On se compare très bien.
On devrait dire heureusement, ça marche.
Oui,
mais
ce que je veux dire par
c'est
là...
C'est pas ça qu'on entend tous les matins, par exemple.
C'est parce que d'un côté, la ligne orange est saturée, on chiale, puis de l'autre côté, les routes sont saturées. Je trouve ça assez surprenant que partout où le transport collectif est le plus efficace, il n'y a pas de corrélation avec la congestion.
Ouais. Et c'est drôle parce que les gens qui m'écrivent, comme Claude, Claude me dit « Le covoiturage, pas question. » Ou plutôt, plus question, il a déjà essayé. Je suis fumeur, l'autre ne voulait pas que je fume. Mm-hmm. Une personne était habituée à déjeuner dans son auto, fait qu'il amenait ses odeurs, puis le bruit. Il y en a une qui détestait le vide, fait qu'elle parlait sans arrêt. Il dit, moi, je commence ma journée en silence, j'écoute la radio. Là, je devais attendre des fois 20 minutes les autres personnes à une station de métro parce qu'ils n'étaient pas prêts. Finalement, il a décidé qu'il voyageait tout seul. C'est beaucoup ce genre de commentaires.
Mais vous avez votre question, Pierre-Elvie, posée.
Il faut qu'on aille à la pause.
On revient
tout de suite après. On a Hamza avec nous. Bonjour, le covoiturage, ça vous dit quoi?
Alors, ça me dit... le covoiturage, c'est bon. Ça a toujours été bon dans plusieurs pays dans le monde, sauf dans l'Amérique du Nord. C'est une question de culture, Madame Isabelle.
Ouais, ouais.
Alors, c'est le jour où on s'occupera de nos aînés, on les gardera chez nous. C'est ce jour-là que le covoiturage va fonctionner très bien au Québec.
Ouais, vous pensez que c'est ça? On est trop individualiste, on s'occupe de nous d'abord, puis on veut pas supporter l'autre qui mange son petit matin au petit déjeuner.
Absolument, et c'est ce que je remarque à tous les jours. Je suis propriétaire chauffeur de taxi de temps en temps, quand je manque de chauffeur. Et quand je prends la 20 à partir de Dorval, on est sur la voie réservée pour le taxi-autobus. Et trois passagers et plus, ben elle est vide, cette voie-là. Elle est juste pour les taxis et les bus, finalement.
Oui, ouais, tout à fait. Merci.
Donc, les gens, ils sont là-dessus. Là.
Merci, Hamza. On a Robert avec nous. Bonjour, Robert.
Bon matin.
On vous écoute?
Oui, moi, je suis pour le covoiturage, puis j'aimerais ça être aidé parce que je fais du covoiturage jour après jour, moi.
Ah, expliquez-nous.
OK, mais moi, je travaille avec ma copine.
Oui.
On reste à Saint-Calix, on fait 77-80 km aller, 80 km revenir, donc on fait 160.
Ouais.
On a une voiture, on prend les voies réservées. Par contre, je suis d'accord avec des gens que pour les voies réservées, qu'on pourrait mettre, mettons, je vous donne un exemple, la rue Saint-Joseph, que la voie réservée, moi, je reste à Montréal, ça fait 4 ans, je reste à Saint-Calix, puis avant que ça soit les voies réservées, il n'y en avait pas de trafic sur le boulevard Saint-Joseph. Depuis qu'on a mis les voies réservées sur Saint-Joseph, ouais, on déborde de trafic. Mm. Moi, je me dis qu'on pourrait mettre 2 et 3 parce que souvent, l'autobus passe pas. Si on verrait l'autobus arriver, on se tasserait, on le céderait à l'autobus, après ça, on revient sur la voie réservée. Mm. Moi, je suis pour ça.
Bien, c'est une bonne idée. Merci, merci Robert, effectivement. C'est ce que je suggérais tout à l'heure, entre autres. On a Richard avec nous. Bonjour, Richard.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Covoiturage pour vous?
Ah, moi, je suis d'accord avec ça, mais moi, c'est juste que moi, je peux pas le pratiquer parce que à l'heure que je commence...
Je suis d'accord, mais pas moi!
non, mais c'est parce que à l'heure que je commence à travailler, je commence jamais à la même heure, puis des fois, je commence à minuit, des fois, je commence à 2h du matin.
Hey, vous seriez étonné, il y a peut-être quelqu'un dans votre coin, vous savez pas.
Il y a beaucoup d'infirmières qui ont des shifts à minuit, monsieur. Oui, c'est très intéressé.
Ouais. On sait jamais, hein. Des fois, on s'en rend pas compte.
Savez-vous une couple d'heures de l'avance?
Comme on connaît pas nos voisins. Ouais, est-ce que vous...
Je ne sais jamais mon horaire. C'est que mon horaire varie à tous les jours. Fait que, mettons, on va vous donner un exemple. Le lundi, je peux commencer, mettons, le lundi cette semaine, on va commencer à minuit, mais l'autre lundi de la semaine d'après, je peux commencer à 4 heures du matin. Fait que je ne sais jamais mon horaire.
Mais vous le savez au moins 5 minutes avant, quand même, j'espère pour vous, Richard, quand même.
Oui, je le sais au moins, mettons, comme le soir, là, mettons, vers les 17-18 heures le soir, à quelle heure je recommence le lendemain matin. Là.
Êtes-vous sérieux?
Oui, oui.
Vous travaillez dans quel domaine?
Je travaille dans le transport des vidanges. Je travaille tout le temps là-dedans. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans.
Fait que vous, le soir, à 5 heures, vous savez pas encore à quelle heure vous commencez le lendemain?
Bien, à 5 heures, vers 5-6 heures le soir, je sais à peu près vers quelle heure que je commence le lendemain matin. Je recommence des fois, mettons, il est 5 heures, des fois, il est 4 heures du matin, des fois, wow, il est 3 heures, tout dépend.
En même temps, on vous remercie parce que vous n'êtes pas la cause de la congestion. Quand vous êtes seul sur la route à 5 h du matin, vous n'avez peut-être pas de covoiturage.
Ben, tu sais qu'il y a de plus en plus de monde à 5 h 30.
Ah oui. Hein.
Pour ça que Paul Arcand commence à cette heure-là.
Moi, ce que je trouve plate, c'est qu'il y a des affaires qui font, moi, je trouve. Moi, vous donner un exemple.
Ouais.
Comme les affaires, là, les voies réservées pour les autobus.
Ouais.
Oui, je suis d'accord avec ça. Mais quand, mettons, les voies réservées pour les autobus sont là, mais que, mettons, il y a un autobus qui passe à peu près aux 35 minutes.
Ben ouais. Ben ouais.
Moi, il me semble, je trouve ça ridicule. La seule affaire que ça fait, c'est que ça fait juste congestionner encore plus le trafic.
C'est clair.
Puis en plus, ils font comme des voies réservées aussi pour les bicycles à pédales. Je comprends pour faire des voies réservées pour les bicycles à pédales, mais on va vous donner un exemple. À Laval, là,
ouais,
ils ont fait ça sur le boulevard industriel à Laval. En 7 mois, là, je n'ai pas vu aucun baissé capital à cette place-là.
Ouais.
En 7 mois, je n'ai pas vu aucun baissé capital.
Ouais.
Ça a pris au-dessus d'un an à faire les voies réservées pour les baissés capital, mais il n'y en a pas.
Merci.
Ça donne quoi de faire ça? Ça donne rien, moi, je...
Merci, Richard. Merci beaucoup. On doit s'arrêter ici. Le Droit de Bonne Aventure, il n'y a pas longtemps, ils ont changé. Là. Ils ont mis une voie réservée beaucoup plus tôt. Ce qui fait que maintenant, si vous voulez savoir pourquoi ça bloque à la sortie, à l'entrée et le dessert, c'est pour ça.
S'il y a un consensus, c'est de partager des voies réservées.
Oui, il y a ça. Je pense qu'on a conclu ça ce matin.
C'est ça qu'on a conclu ce matin.
Au moins agir, s'il vous plaît, les politiciens qui nous ont écoutés. Faites quelque chose avec les voies réservées. Merci beaucoup à tous les trois. C'était fort intéressant.
Plaisir.
Merci bien.